De retour en compagnie de Philippe Ducharme. Bonjour Philippe, comment ça va?
Ça va bien, bonjour François.
Ça va bien. Philippe, vulgarisateur scientifique maison de Sans détour. Hein? Chaque mois, on fait la revue des bonnes nouvelles, des avancées dans la recherche un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, on va parler, et ça donne bien parce que c'est souvent une résolution qu'on prend avec le début de l'année, on va parler d'exercice physique.
Absolument. Écoute, quand on regarde un peu la science, la recherche qui se fait, on voit bien que on n'a pas fini d'en apprendre sur les bienfaits de l'exercice physique. Et pour cela, ce que j'ai envie de vous présenter d'abord aujourd'hui, c'est une recherche qui est effectuée par des chercheurs ici à Montréal, à l'Université de Montréal, des chercheurs en collaboration avec d'autres chercheurs australiens. Et essentiellement, ils sont arrivés à la conclusion que l'activité physique peut contribuer à ralentir la croissance du cancer. Bon, dans leur cas, c'est le cancer de la prostate qu'ils ont étudié, mais les chercheurs pensent bien que ça peut s'étendre à tout autre type de cancer. Et ce qu'il faut bien mentionner, c'est que quand on dit activité physique, on va parler ici d'activité physique soutenue, ou plutôt d'activité physique aérobique.
D'accord, ça c'est important. Il faut oui. Aérobique, ça veut dire que les battements du cœur augmentent?
Exactement, entre autres, et puis que, ben, au niveau des réactions biochimiques, là, pour produire notre énergie, pour faire fonctionner nos muscles, bien, on aura besoin d'oxygène. Donc, d'où l'apport en oxygène, on se met à respirer plus fréquemment,
plus profondément, rapidement. Oui.
Voilà, exactement. Et donc, ce qu'ils ont donc décidé de faire, donc ils se sont intéressés aux gens atteints du cancer de la prostate. Ils avaient 9 patients avec une forme assez avancée et agressive de ce cancer-là, malheureusement. Ces personnes-là ont été soumises à une séance d'entraînement d'une trentaine de minutes. Et avant, pendant et après la séance d'entraînement, ils ont prélevé un échantillon de sang.
Qu'est-ce qu'il faisait? Du vélo stationnaire?
Oui, vélo stationnaire, exactement.
Okay. Donc, parce que je suppose que c'est plus facile de faire du vélo stationnaire, avoir les prises de sang en temps réel,
voilà.
que s'ils commencent à courir partout dans le parc.
Oui, exactement. Et donc, le sang a été récolté, puis bon, en se débarrassant des globules rouges, là, on a gardé que la partie qu'on appelle le sérum, la partie, le plasma sanguin. Ben, ce qu'ils ont remarqué, c'est que suivant une activité physique intense comme celle-ci, ils ont remarqué une augmentation du taux de certaines protéines qui sont produites par les muscles, et ces protéines-là, on les appelle des myokines.
M-Y-O-K-I-N-E, myokines.
Voilà. Myokine, myo pour cellules du muscle, cellules musculaires.
C'est vrai.
Voilà. Ce sont des protéines qui ont comme pour fonction habituellement de communiquer entre les cellules, un peu comme des messagers. Ça envoie des messages, soit sur courte distance, soit à plus longue distance, là, par le système sanguin. Ce sont les myokines vont réagir en cascade, c'est-à-dire ils vont faire des réactions d'activation en cascade, qui peuvent, par exemple, activer d'autres voies cellulaires ou d'autres molécules ou d'autres cellules.
Ils ont donc isolé les myokines parce qu'ils s'apercevaient que l'exercice physique augmentait le taux de myokines dans le sang.
Voilà.
Puis là, après ça, ils ont isolé les myokines, puis ils s'en sont servis comme médicament contre le cancer.
C'est-à-dire qu'ils les ont mis en présence de cellules en laboratoire, des cellules de cancer de la prostate. Puis ce qu'ils ont remarqué, c'est que ça diminuait de manière significative la croissance de ces cellules-là. En conclusion, on peut dire que cette soupe-là de myokines, parce que c'est pas juste une sorte de protéine, il y en a quelques-unes du moins, ça présente peut-être dans le fond des fonctions anticancéreuses qu'on n'avait peut-être pas tout à fait remarquées jusqu'à présent. Puis ce qui est certain, c'est que ça va stimuler la recherche en ce sens.
L'activité physique augmente le taux de myokines dans le sang suite à la sollicitation des muscles. Et la myokine et ses parentes semblent avoir un effet de ralentissement de croissance sur des cellules cancéreuses. Alors, est-ce que ça s'applique à d'autres cancers que celui de la prostate?
C'est
à voir.
Les auteurs pensent.
Mais c'est une avenue intéressante. Et ça, c'est des gens de Montréal, je pense. Si je peux me permettre de le saluer, c'est le docteur Fred Saad, que je connais, des gens en Australie. Alors, ils ont travaillé ensemble pour arriver à cette conclusion-là. Alors, d'avoir des myokines, c'est bon.
Exactement. Et voilà.
Voilà.
Et voilà.
Par ailleurs, il y a des choses qui ne sont pas très bonnes à avoir. Là, on tombe de l'autre côté, là.
Oui, on peut dire. Je reviens un peu sur ce qu'on avait discuté là, au mois de novembre dernier. Je parlais de variations de certaines bactéries dans l'intestin qui peuvent être corrélées parfois à certaines maladies. On parlait de la fibromyalgie. Cette fois-ci, ben, je vous amène un peu plus dans un autre exemple intéressant qui montre que, on en apprend de plus en plus sur le rôle que peuvent jouer les bactéries qui colonisent l'intestin. On appelle ça la flore intestinale, ou on peut également appeler ça le microbiome.
Souvent, on voit sur les pots de yogourt, c'est marqué que c'est probiotique, c'est-à-dire que ça, c'est bon d'en manger parce que ça favorise la population microbienne de notre système digestif.
Exactement. Donc, tu l'as dit, microbiome, on va retrouver des bactéries, des virus, des champignons, des choses tout à fait habituelles dans notre intestin.
Une chance qu'on on sent pas quand ça bouge, hein, parce que
on serait
chatouillé l'intérieur tout le temps là.
Exactement. Puis il faut le dire, d'abord, tout ça, c'est bon et c'est important. Parce que, par exemple, là, je vais parler particulièrement des bactéries, on en a besoin pour faire la fermentation et assimiler certains nutriments.
D'accord.
Sans eux, on n'y arriverait pas. De la même manière qu'ils vont parfois nous protéger contre des infections, autres, c'est-à-dire empêcher des mauvaises bactéries de venir s'installer dans notre intestin, par exemple. Et là, je vais vous amener un peu plus sur le terrain de la recherche qui a été faite. Donc, il y a des études, parce que ce n'est pas qu'une seule, qui ont montré qu'il y a certaines espèces bactériennes qu'on va retrouver dans l'intestin qui semblent agir de manière plutôt draconienne au niveau du développement d'un cancer, le cancer du côlon. Ah. Donc, cancer colorectal, qui est quand même pas jojo, là, on va dire.
Oui, puis c'est quand même une cause importante de décès. Là.
Absolument.
C'est beaucoup de cas de cancer au Canada. Il y en a 10% là, qui sont du type colorectal. Ça fait...
Voilà.
C'est 20 quelques mille Canadiens, Canadiennes par année qui ont un diagnostic. C'est une cause de décès importante. C'est pas négligeable.
Exactement. Et parmi les causes, on en connaît quand même quelques-unes, la sédentarité, le surpoids, une mauvaise alimentation. Mais là, ce qu'il faut peut-être considérer maintenant, c'est que certaines bactéries, je vais en nommer deux, certaines souches de E. coli. Colis que vous avez certainement...
On en entend parler quand il y a des problèmes de contamination dans l'eau.
Oui, exactement. À la base, la plupart des colis ne sont pas nocifs, ceux qu'on a dans l'intestin. C'est même que dans certains cas, c'est bénéfique, ça joue au niveau de la synthèse d'une vitamine, la vitamine K. Mais il y a des variantes de colis qui vont, par exemple, causer de la gastro-entérite, la diarrhée.
On sait ce que c'est, là, quand on vient de voyage.
On ne fera pas des détails. Je vais nommer l'autre espèce bactérienne, Morganella morgani.
Ah, je suppose qu'il y a un monsieur ou une madame Morgan qui a participé à sa découverte, là, ou c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'aimait pas beaucoup sa belle famille qui a choisi ce nom-là.
Toujours est-il que certaines souches de ces bactéries-là vont produire des toxines. Okay. Ces toxines-là vont endommager l'ADN. Puis quand ça touche à l'ADN, bien évidemment, ça peut entraîner des mutations.
Oui.
Et par effet de cascade, on peut donc favoriser le développement d'un cancer comme celui du cancer colorectal.
Alors, ça, il s'agit de bactéries qui peuvent se retrouver normalement à l'intérieur du système digestif.
Exactement.
Mais pour toutes sortes de raisons, et là, il s'agit d'explorer, de pousser la recherche plus loin. Pourquoi est-ce qu'en certaines circonstances, ces bactéries-là en particulier se retrouvent en trop grande quantité parce qu'elles sont, elles deviennent toxiques et en fait même cancérigènes?
Oui, ou du moins certaines espèces de ces bactéries-là.
D'accord.
Puis, c'est ça, la recherche se penche là-dessus de plus en plus, là, sur ces... toxines-là qui, justement, on les connaît pas beaucoup, là. On est vraiment dans l'exploration à ce niveau-là.
Mais que cela ne nous fasse pas perdre le sommeil.
Non.
Maintenant, il s'agit pour terminer, on parle d'un pyjama.
Oui, exactement.
Qui monitore l'apnée du sommeil.
C'est ça.
Un pyjama intelligent.
On pourrait quasiment dire ça, j'ai envie, on peut dire. En fait, c'est ça. C'est une avancée technologique pour monitorer, donc faire des enregistrements de l'état de l'apnée du sommeil chez les patients qu'on suspecte qu'ils souffrent d'eux ou qu'on veut mieux évaluer. L'apnée du sommeil rapidement, là, ce sont des arrêts répétitifs de répétition durant le sommeil. Ça dure plus ou moins une trentaine de secondes.
Mais plus ou moins consciemment, les gens se réveillent à tout bout de champ.
Exactement,
et ils ont des très mauvaises nuits de sommeil. Puis ça crée une cascade d'autres problèmes.
Ben voilà, la fatigue, la somnolence durant le jour, puis perte de concentration, diminution des capacités de concentration. Donc, une équipe un laboratoire d'innovation européen a mis au point un capteur qui peut être directement imprimé sur du tissu, un peu comme on imprime un logo, par exemple. Fait d'un matériau qui est à la fois souple, mais qui peut s'étirer et reprendre sa forme. Ce matériau-là, en fait, est aussi constitué d'une encre qui peut conduire l'électricité. Donc,
d'accord. Alors, c'est un capteur qui va se déformer avec la respiration de la personne qui porte le pyjama. Et cette déformation-là va envoyer un signal. Parce que ça a aussi une caractéristique de conduction électrique, ça va envoyer un signal qui va dire, ben là, la personne ne respire plus de façon normale ou régulière.
Exact. En fait, c'est surtout, j'ai oublié de le préciser, c'est dans le contexte où on va être évalué par l'examen médical de polysomnographie. Donc, c'est quand on veut vraiment confirmer qu'une personne souffre bien de troubles d'apnée du sommeil. Donc, on va entre autres monitorer son rythme respiratoire. Il y a d'autres paramètres qu'on évalue, mais il y a celui-ci. Puis ce qu'on porte habituellement, ce sont des ceintures thoraciques et abdominales. Donc, comme deux ceintures au niveau du ventre, mais ça peut amener...
Mais ça, c'est pas très confortable, dire, une fois que vous êtes harnaché avec tout ça, dire, ben là, faites comme si vous étiez à la maison et endormez-vous.
Voilà, c'est ça.
c'est pas tout à fait confortable comme idée. Alors.
Amenez votre pyjama, va imprimer ce qu'il faut dessus, ou alors on vous fournit un pyjama avec les capteurs imprimés sur celui-ci. Puis, c'est peut-être plus confortable et moins invasif comme
C'est intéressant, ça, c'est des vêtements intelligents. On peut penser à toutes sortes d'autres applications, tout à fait. Ben, Philippe, c'est tout pour cette fois-ci. On se reparle dans un mois. Merci
Absolument.
Beaucoup. Et on va aller faire de l'activité physique, ça c'est sûr.
Oui.
Bravo.
Merci bien.
Après la pause, le docteur Sylvie Belleville, on va parler d'Alzheimer. À tout de suite.